Bongo, Douimana.
Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Avec l'absence de justice sociale au Burundi, nombre de Burundais choisissent de quitter le pays avec aussi un risque d'instabilité sécuritaire. Le directeur national de l'organisation PARCEM dresse un bilan sombre sur ce sujet lors d'un point de presse organisé ce vendredi à l'occasion de la Journée mondiale de la justice sociale, célébrée le 20 février de chaque année. Le gouverneur de la Banque centrale déclare un montant cumulé de près de 34 millions de dollars américains représentant la valeur des exportations en minerais au cours du quatrième trimestre de l'année 2025. Édouard Normand Vigenda a présenté ce jeudi le rapport sur la politique monétaire au Burundi. Et le ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique annonce le retour inévitable de la classe de 10e dans le parcours scolaire. Vous entendrez ses explications. Voilà pour le sommaire.
Isanganiro, la radio de l'avenir.
200 kilos d'or d'une valeur de 27 millions de dollars américains ont été exportés au cours du quatrième trimestre de l'année 2025. D'autres types de minerais exportés pour la même période valent environ 7 millions de dollars américains. Annonce faite par le gouverneur de la Banque de la République du Burundi, Berbe, qui précise également que l'inflation pour le premier trimestre 2026 devrait continuer à décélérer jusqu'à 11%. Lors de la présentation ce jeudi du rapport sur la politique monétaire au Burundi, Édouard Normand Vigendako a déclaré qu'une partie des recettes d'exportation ont été déjà rapatriées dans le trésor public. Il donne ici des précisions.
Au cours du quatrième trimestre de 2025, les exportations de l'or s'élèvent à 200,04 kg et d'une valeur de 27 842 94,6 $ américains. Les quantités exportées de minerais autres que l'or s'élèvent à 956,14 tonnes d'une valeur de 7 353 747,87 $ américains. Et les recettes issues de ces exportations qui sont déjà rapatriés sont de 6 205 584,86 $ américains, soit 84,4%. Pour l'année 2026, la croissance est projetée à 4,8% et serait portée par les secteurs primaires et secondaires. Le transfert des migrants affiche une bonne performance. Le transfert reçu au cours du quatrième trimestre 2025 s'élève à 59,5 millions de dollars contre 53,2 millions de dollars la même période de 2024, soit une augmentation de 11,95%. Les prévisions d'inflation pour le premier trimestre 2026 montrent que l'inflation globale continuerait à décélérer pour s'établir à 11,3%. Tirée par la baisse dans toutes ses composantes, l'inflation alimentaire se situerait à 5,9% et celle sous-jacente à 16,4%.
Édouard Normand Vigendako, gouverneur de la Banque de la République du Burundi. La baisse du taux directeur va permettre aux banques commerciales d'accorder des crédits à un taux abordable aux entreprises ainsi qu'aux citoyens. Cela va encourager les gens à investir. Explication donnée par un professeur expert en économie au moment où la banque vient de baisser ce taux, le faisant passer de 12 à 10%. Diomède Nineretse appelle la Banque de la République du Burundi à prendre également d'autres mesures, notamment celles qui concernent l'inflation pour assainir le climat des affaires au Burundi. Suivez-le.
Le taux directeur, c'est le taux d'intérêt auquel la banque centrale prête les banques commerciales. Autrement dit, c'est-à-dire si la banque centrale donnait les banques commerciales à un taux de 12%, maintenant la banque centrale va donner l'argent à 10%, c'est-à-dire qu'il y a un avantage comparatif. Autrement dit, la banque commerciale aussi devra effectivement aussi revoir à la baisse le taux d'intérêt pour les entreprises et pour les ménages à 15% si elle devrait diminuer proportionnellement à ce que la banque centrale a diminué. Ça, c'est le premier avantage parce qu'effectivement, les ménages et les entreprises vont devoir chercher les crédits pour un taux d'intérêt très réduit parce que la banque centrale aussi a diminué le taux d'intérêt. Alors, l'autre conséquence, c'est qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que les ménages et entreprises vont augmenter leur demande. Et quand il y a l'augmentation de la demande, il y a bien évidemment l'augmentation de la... Quand il y a l'augmentation de la production, il y a aussi l'augmentation des investissements. Autrement dit, il y a un intérêt direct pour les entreprises et pour les ménages et puis particulièrement pour la population qui devra avoir un intérêt à un taux d'intérêt réduit. Ça, c'est un avantage qu'il faut souligner. Deuxièmement, maintenant qu'il va y avoir une demande excessive des crédits, c'est-à-dire que les gens vont se précipiter pour investir dans les domaines variés, notamment l'agriculture, l'élevage et même pour des produits de transformation agricole. La mesure de donner l'autodirection, c'est une mesure stratégique dans le domaine de la politique monétaire. Il va dans l'intérêt de la Banque centrale de pouvoir effectivement réguler l'offre et la demande. Parce qu'aujourd'hui, il y a le déséquilibre. Parce qu'il suffit de regarder l'inflation qui aujourd'hui est estimée à plus de 30%. Aujourd'hui, en plus d'autres. Parce que ce n'est pas le taux directeur qu'il faut finalement réduire seulement, il faut aussi gérer l'inflation. Autrement dit, il faut que la BRB continue d'abord à diminuer, de mettre les bons de trésor sur le marché. Parce qu'en mettant les bons de trésor sur le marché, par exemple, vous créez encore une fois de l'inflation. Donc ça ne vaut pas la peine de diminuer le taux d'intérêt si la BRB va continuer toujours à mettre des bons de trésor et que les banques commerciales continuent à chercher de l'argent au niveau de la Banque centrale.
La radio de l'avenir.
L'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités PARSEM estime que la justice sociale demeure fragile au Burundi. Son directeur national l'a dit ce vendredi lors d'un point de presse organisé à l'occasion de la Journée mondiale de la justice sociale, célébrée chaque année le 20 février. Selon Faustin Dikoumana, le renforcement de la justice sociale passe nécessairement par l'égalité de tous les citoyens devant la gestion des biens publics et par un partage équitable des richesses nationales. Il déplore qu'une minorité s'accapare des ressources du pays, tandis qu'une partie de la population demeure marginalisée. On l'écoute.
La justice sociale est normalement est une notion très importante dans la vie d'un pays. Elle est la base du développement économique et de l'épanouissement social des citoyens dans un pays. Quand on dit de la justice sociale, alors ce n'est pas la justice des tribunaux comme certains voulaient le faire croire. C'est plutôt la justice fondée sur l'égalité des droits pour les citoyens, l'égalité des chances, le fait de bénéficier au progrès économique sans discrimination, la libre entreprise, l'accès équitable aux facteurs de production, l'amélioration des revenus des citoyens, lutter contre les disparités trop prononcées, l'existence plutôt d'une classe moyenne pour éviter qu'il y ait une oligarchie rompue aux pratiques de la spéculation, l'accès à l'éducation de qualité, l'accès à la santé, à l'eau potable, donc transport public amélioré, l'internet. C'est aussi le facteur qui alimente le renforcement de la conscience nationale, le renforcement d'appartenance à une nation. La justice sociale d'abord à la première entrave, l'existence d'une économie dualiste, dichotomisée. Ça veut dire on dirait qu'on a deux types d'économies. Il y a une économie entretenue par une classe de gens qui est déjà constituée un système et d'autres qui sont en dehors du système. Et cette dichotomie est en train de créer des situations vraiment indescriptibles. Il y a par exemple l'existence des monopoles qui infestent toute la vie de l'économie nationale, l'extraversion de la consommation du système construit par cette classe privilégiée et la population rurale et d'autres, à part actuellement même, la classe moyenne a disparu. C'est une sonnette d'alarme au pouvoir, au président et son gouvernement. La justice sociale est dans un état déplorable et les gens commencent à vraiment ne plus considérer leur pays comme une terre d'avenir. Ça, c'est gravissime.
Faustin Dikoumana a fait remarquer que lorsque la justice sociale n'est pas respectée, certains citoyens ne se sentent plus concernés par leur pays, tandis que d'autres choisissent de le quitter. Il ajoute que cela peut aussi entraîner une instabilité sécuritaire.
Vous imaginez même au niveau de la construction des bureaux de zone, outre le détournement des fonds, d'abord, il y a ceux qui ont payé les taxes et les impôts, qui ont été accablés des taxes, il y a ceux qui viennent pour détourner ces taxes à travers la construction des bureaux de zone, et aussi il y a ceux qui ont
pousser votre prudence à l'extrême en exigeant même
les contributions. Contribuer pour construire les bureaux de zone, on met dans notre poche aussi détourner même une partie des fonds venus du budget central pour construire les, chefs de, les bureaux de zone. C'est quand même trop. C'est justement cette gestion sociale où l'économie a été complètement dichotomisée. Un groupe de gens qui ont conçu déjà un système et exclu les autres. C'est ça la première conséquence. Les chiffres, vous voyez ça, mais le changement, pas. La deuxième conséquence, dans un pays où la justice sociale n'a plus droit de citer, c'est alors déserter et fuir le pays. Tous ceux qui ne sont pas recadrés dans le système, ils doivent partir. Parce que les mécanismes gouvernementaux sont ficelés justement pour entretenir cette situation. Quand il n'y a plus un changement, vous êtes enseignant, départ. Médecin, départ. Jeune, départ. Fonctionnaire, départ. Maintenant, on différencie puis un fonctionnaire, un jeune, un ce qui est dans l'informer, c'est le même sac. La classe moyenne a complètement disparu. Donc, ne vous étonnez pas si vous voyez les anciens qui désertent, ne vous étonnez pas. Là où la justice sociale a disparu, c'est ça la conséquence.
Faustin Ndikoumana, il est directeur national de l'organisation PARCEM. Je vous l'avais dit dans les titres, le retour de la classe de 10e dans le parcours scolaire est une obligation pour répondre à la qualité des enseignements. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique au cours d'une émission co-animée par les radios nationales Ndiragakura la semaine dernière. François Vyarimana a expliqué que c'est le seul moyen envisageable pour l'augmentation des heures de formation compte tenu des effectifs des élèves, des enseignants et des classes. On l'écoute dans cette traduction de Jean de Dieu Irakoze.
Nous avons opté en premier lieu à une augmentation des heures des cours. Pour ce faire, ce n'est pas possible d'envisager la double vacation comme on le faisait avant, car les élèves sont plus nombreux, les classes insuffisantes et les enseignants moins nombreux. La solution passe ainsi par l'augmentation des années de formation pour récupérer les heures perdues suite à l'impossibilité de la double vacation. Le retour de la 10e année est une obligation à la fois pour l'augmentation des heures de formation et celle dédiée à l'enseignement du français. Pourquoi j'insiste sur cette langue? Il y en a qui prennent à la légère cette langue française, mais pour les enseignants, nous la prenons comme fondamentale car c'est une langue d'enseignement. Le professeur Désiré a parlé qu'un élève tenu à exposer une leçon ne parvient pas à s'exprimer ou s'exprime mal suite à l'incompréhension de cette langue, ce qui affecte également les cours à apprendre, qu'il s'agit des mathématiques, de la biologie et d'autres. En augmentant les heures de formation, on augmente de même les heures de cours.
François Habyarimana, c'est le ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique. Les propriétaires des véhicules et motos de Ngozi qui s'approvisionnent en carburant les trois premiers jours de la semaine déplorent qu'ils ne parviennent pas à être servis puisque la plupart des stations ont du carburant le plus souvent dès jeudi jusqu'à dimanche. Ils demandent par conséquent à la société pétrolière du Burundi de réorganiser la distribution du carburant et proposent l'alternance d'une journée pour les deux catégories de véhicules et motos afin que tout le monde soit servi en cas de disponibilité du carburant. Apollinaire Muzakara.
L'actuelle organisation de la société pétrolière du Burundi donne du carburant aux véhicules, motos et tuk-tuk dont l'immatriculation terminée par les chiffres 0, 1, 2, 3 et 4 les trois premiers jours de la semaine. Ceux ayant les chiffres 5, 6, 7, 8 et 9 s'approvisionnent dès jeudi jusqu'à dimanche. La première catégorie de ceux qui s'approvisionnent les trois premiers jours de la semaine se lamentent comme quoi ils ne reçoivent presque pas de carburant. Selon eux, la SOPEBU achemine le plus souvent du carburant aux différentes stations de la ville d'Ngozi et des environs durant les derniers jours de la semaine à partir de jeudi pour être vidé au plus tard dimanche. Il y a d'après eux deux fois où le carburant arrive le mercredi soir pour commencer la distribution jeudi. Jamais donc selon eux du carburant à Ngozi le lundi, mardi, voire mercredi. Ces habitants d'Ngozi demandent par conséquent à la SOPEBU la révision de leur système d'approvisionnement en posant l'alternance d'une journée pour les deux catégories d'immatriculation. Nous avons téléphoné le directeur général de la SOPEBU, Mesanve. Son téléphone sonnait, mais personne ne décroche. Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro.
À l'actualité internationale, avant la chronique environnement, au moins 9 personnes ont été tuées dans la frappe de drone attribuée à l'armée congolaise qui a coûté la vie à Willy Ngoma, porte-parole de la rébellion de l'AFC M23 dans l'est de la RDC. Reuters ajoute que le commandant militaire du M23, Sultani Makenga, a failli succomber à cette attaque qui s'est déroulée à Rubaya, un centre minier stratégique contrôlé par le M23. La localité produit environ 15% de l'approvisionnement mondial en coltan et figure dans l'accord de coopération minière signé par la République démocratique du Congo et les États-Unis. La Zambie a suspendu un projet d'accord bilatéral de santé avec les États-Unis, invoquant des clauses jugées contraires aux intérêts nationaux. L'accord d'un montant supérieur à 1 milliard de dollars sur 5 ans visait à soutenir la lutte contre le VIH-Sida et le paludisme, renforcer la santé maternelle et infantile et améliorer la préparation aux épidémies. Il prévoyait également un cofinancement zambien de 340 millions de dollars. Le projet comprenait des clauses controversées liant le financement et un engagement bilatéral associé à une collaboration minière et à un partage de données sur les pathogènes pour 10 ans, suscitant des inquiétudes sur la souveraineté et l'usage des informations. Et en 2025, près de 8000 personnes sont mortes ou ont disparu en tentant de rejoindre un autre pays, d'après l'Organisation internationale pour les migrations, OIM. Si ce chiffre est en baisse par rapport à 2024, l'agence de l'ONU souligne que le bilan réel est probablement bien plus lourd en raison de coupes dans le financement humanitaire et des difficultés d'accès aux informations. Les routes migratoires restent extrêmement dangereuses, particulièrement les traversées maritimes. L'OIM indique que 2108 personnes ont disparu en Méditerranée et 1047 ont péri ou disparu sur la route vers les îles Canaries. Les voies légales de migration se réduisant, les migrants se retrouvent souvent contraints de passer par des réseaux de passeurs, exposant ainsi leur vie à de grands risques.
Radio Isanganiro, chronique environnement.
Dans une récente chronique, Dr Norbert Manirakiza, enseignant à l'École normale supérieure et chercheur en environnement, a expliqué que les maladies respiratoires ou les cancers figurent parmi les effets néfastes pouvant toucher les personnes vivant à proximité du site de décharge des déchets de la ville de Bujumbura de Mubone. C'est dans la zone Buterere. Dans la chronique d'aujourd'hui, cet expert précise que les déchets accumulés sur ce site peuvent aussi générer de l'électricité ou pourraient être valorisés pour produire du gaz utilisable dans la cuisson. C'est une rediffusion. Lydie Gahimbare.
Faire le triage des déchets par catégorie dès la source ou à l'arrivée au site et mettre de côté les déchets biodégradables et les non biodégradables ou les plastiques de l'autre côté pour les recycler serait le moyen le plus efficace pour gérer les déchets déposés au site de Mubone dans la zone de Buterere et limiter leurs défis. Explication du professeur Norbert Manirakiza, enseignant et chercheur à l'école normale et supérieure et expert en sciences de l'environnement.
Et la première étape essentielle et le tri des déchets à la source par catégorie. Et chaque fraction de déchets peut suivre sa propre filière de valorisation. Les déchets biodégradables peuvent être traités par compostage contrôlé, les plastiques et les métaux pouvant aussi être recyclés, tandis que les déchets dangereux, comme les déchets pharmaceutiques ou hospitaliers, peuvent être pris en charge par des filières spécialisées.
Cet expert en sciences de l'environnement explique également que dans les pays avancés, les déchets sont considérés comme une source énergétique. Selon lui, cela est possible aussi pour le Burundi où les déchets biodégradables peuvent être valorisés sur le plan énergétique.
Dans de nombreux pays déjà avancés, les déchets constituent une ressource. Cela peut également être de même ici chez nous. Par exemple, pour le cas des déchets biodégradables qui représentent une part importante aux environs de 70% des poubelles de la ville de Bujumbura, ces déchets peuvent être valorisés sur le plan énergétique. Premièrement, on peut faire les briquettes écologiques qui peuvent être une source de cuisson alternative aux charbon de bois, ce qui contribuerait à la production des forêts. Ailleurs, on peut également faire la biométhanisation qui permet de produire le biogaz à partir de ces déchets. Alors, une énergie propre pourrait provenir alors de ces déchets organiques pour servir à la cuisson, à l'éclairage ou même à la production d'énergie électrique.
Professeur Norbert Manirakiza, enseignant et chercheur à l'École normale supérieure, conseille la population burundaise de voir les déchets comme une source de l'énergie, mais pas seulement de la problématique.
Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.